Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le décryptage des dernières déclarations en date des responsables houthis prêts à cesser toute attaque contre l'Arabie Saoudite, une revue de presse algérienne au lendemain d'une nouvelle mobilisation citoyenne du Irak, le récit d'une nouvelle possible instrumentalisation de la justice d'un État étranger par Donald Trump qui aurait cette fois jeté son dévolu sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, les complexités de l'affaire Karachi après les réquisitions de François Molins qui demande le renvoi devant la Cour de justice de la République d'Edouard Balladur et François Léotard, la grève mondiale pour le climat qui hier a fait des émules au Brésil et un approfondissement de cet enjeu complexe avec la bulle écho de ce samedi qui s'attarde sur les passagers clandestins de la taxe carbone. Réunir les circonstances pour arriver à ses fins, moyennant des propos, une posture contre nature. En témoigne la rhétorique du président du Conseil politique des Houthis, Mehdi Machat, qui hier soir déclare « Nous envisageons l'arrêt de toutes les attaques contre le territoire de l'Arabie Saoudite ». Fin de citation. Peu de temps, si peu de temps, après les frappes contre de majeures installations pétrolières du royaume, frappe revendiquée par ceux qu'Aden nomme les rebelles. Le hiérarque des Houthis va, Claude Guibal, jusqu'à parler de la paix quand ses ennemis américains envoient des renforts de troupes.
Évidemment, après l'escalade vertigineuse de ces derniers jours, la proposition des Houthis d'arrêter leurs attaques sur l'Arabie Saoudite apparaît comme une surprise. Mais pour autant, ce n'est pas une rupture. En échange de l'arrêt des attaques, les Houthis demandent en effet la réouverture de l'aéroport de Sanaa et un accès libre au port stratégique de Hodeida. Ces revendications, elles existent de longue date, ils les ont déjà exprimées, notamment lors des dernières négociations de paix menées sous l'égide des Nations Unies. En fait, ce coup de poker apparaît plutôt comme une habile manœuvre. Les Houthis, après avoir fait monter les enchères, offrent en effet ainsi une porte de sortie politique à cette crise et ils rendent d'autant plus délicates des frappes de représailles américaines qui apparaîtraient comme un casus belli alors que eux proposent une désescalade.
Les États-Unis ont également rivalisé de contradictions s'agissant du conflit qui les oppose à l'Iran. Hier soir, la Maison-Blanche a pris de nouvelles sanctions contre deux institutions financières iraniennes. Avant-hier, à Abu Dhabi, le secrétaire d'État Mike Pompeo déclarait « Nous sommes ici pour bâtir une coalition vouée à l'instauration de la paix et à la résolution pacifique ». Fin de citation. Un homme d'affaires égyptien en exil en Espagne publie plusieurs vidéos virales appelant au renversement du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qu'il accuse de corruption. Manifestation la nuit dernière, place Tahrir, au Caire, des dizaines d'arrestations de militants de l'opposition. Quand la presse gouvernementale algérienne souligne, je cite, que l'Algérie ne peut rester indéfiniment un corps sans tête, les journaux indépendants martèlent que le Irak ne fléchit pas, pour reprendre les termes d'Ali Baman dans les colonnes d'El Watan. Hier, dans Alger, ville bouclée, des dizaines de milliers de manifestants ont ciblé la tête du régime, le général Ahmed Gaït Salah. C'est une revue de presse de Laïla Berato, de RFI.
Le peuple gagne la bataille d'Alger. En lettres rouges sur une photo pleine page qui montre des fourgons de police noyés dans une foule immense, le quotidien francophone Liberté souligne que la fermeture de la capitale algérienne, comme celle décidée par l'armée française lors de la guerre d'indépendance, n'a pas eu d'impact sur la mobilisation. Si les médias étatiques n'ont presque fait aucune mention des manifestations d'hier, les médias privés, eux, mettent en avant une mobilisation qu'ils qualifient d'exceptionnelle. Pour le Huffington Post Algérie, c'est un tsunami humain qui a déferlé sur la capitale. Les nombreux barrages filtrants n'ont pas eu les résultats escomptés par le chef d'état-major. Les ordres de ce dernier ont finalement eu un effet inverse, écrit le site internet. Pour le quotidien El Watan, les manifestants sont plus déterminés que jamais. Le correspondant du journal à Oran, la deuxième ville du pays, raconte que de nombreux manifestants étaient venus des quartiers populaires. Ils chantaient « Nous sommes de retour et vous allez en voir de belles avec nous ».
Correspondance d'Alger de Laïla Berato de RFI. Aucune accalmie sur l'un des fronts du mandat de Donald Trump. Un front ardent, celui qui l'oppose au service de renseignement, avec une nouvelle affaire qui met en scène le président américain et un chef d'État étranger, en l'occurrence ukrainien. C'est un lanceur d'alerte, membre des services secrets, qui a levé le lièvre qui noircit les colonnes des grands journaux américains. En Ukraine, les agissements des proches de Donald Trump ne font pas mystère. Kiev, Stéphane Sioran.
Il y a environ 2 semaines, lors d'une conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump aurait fait une promesse à son homologue ukrainien, la poursuite de l'aide militaire contre l'ouverture d'une enquête ukrainienne visant Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection de 2020. Biden dont le propre fils, il y a quelques années, avait fait des affaires un peu douteuses en Ukraine dans le domaine de l'énergie. À Washington, les parlementaires sont tombés des nues. Le président serait donc prêt à instrumentaliser la justice d'un autre pays pour faire tomber son adversaire. Mais en Ukraine, où l'on se méfie énormément d'un Trump considéré comme pro-russe, cela fait un bon moment qu'on observe un drôle de manège. En mai, l'avocat de Trump, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, tente de venir à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, fraîchement élu. Mais le jeune président, alerté, refuse de le recevoir. Ensuite, tout l'été, l'administration américaine va faire pression sur les dirigeants ukrainiens afin que ces derniers lancent une enquête judiciaire visant la famille Biden et prenant ainsi en otage la vie politique ukrainienne. En septembre, le département d'État américain va même menacer de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine jusqu'au fameux coup de fil d'il y a environ 2 semaines qui pourrait valoir quelques soucis à l'hôte de la Maison Blanche.
Quel lien faire entre la vente de sous-marins au Pakistan et la campagne présidentielle de 1995, celle précisément d'Edouard Balladur? C'est la question que les enquêteurs en charge du dossier Karachi ressassent depuis 2009. Pourquoi dit-on Karachi d'ailleurs? En 2002, 11 employés français de l'ex-DCN périssaient dans un attentat qui a fait 15 morts au total dans la capitale économique du Pakistan. Mais le fond de l'affaire porte sur le versement douteux des rétrocommissions incluses dans la transaction entre les deux États. Ils ont manifestement progressé, ces enquêteurs, à telle enseigne que le procureur général François Molins a requis, il y a 2 mois, le renvoi devant la Cour de justice de la République de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et de son ex-ministre de la Défense François Léotard. Diane Berger a sollicité Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart et co-auteur de Le contrat, Karachi, l'affaire que Sarkozy veut oublier.
L'effet de corruption ou de détournement de fonds publics qu'aurait pu être recherché était pour partie prescrit. Et l'analyse qui a été faite d'abord par le juge Van Drumbeck avant qu'il se déporte et qu'il donne le dossier à la CJR pour les membres du gouvernement, c'était de dire que le versement des commissions à un réseau d'intermédiaires qui était pourtant inutile à la conclusion des marchés d'armement dont nous parlons, c'est-à-dire avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite, ces commissions sont un abus de bien social. En fait, la prescription avec l'abus de bien social, là on fait un peu de la barbarie juridique, mais ne commence qu'à partir du moment de la découverte des faits, pas de leur commission, puisque le propre de ce type de délit, c'est la dissimulation. Et la découverte des faits, c'est en 2008, grâce au rapport Nautilus qui avait été fait sur l'attentat de Karachi et qui disait qu'il y avait peut-être une hypothèse liée à cet attentat, qui est les détournements d'argent et les commissions pour financer la campagne Balladur en 95.
Parmi les personnes citées dans l'affaire, il y a un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'ancien président pourrait être concerné par le procès?
Il y a un angle mort dans l'enquête de la Cour de justice de la République, quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire que quand le juge Van Drumbeck a saisi la CJR de sa demande de poursuite de l'enquête pour les membres du gouvernement, il dit qu'il a des éléments pour mettre en examen Édouard Balladur et François Léotard, et concernant Nicolas Sarkozy, il dit qu'il y a un soupçon. Et son soupçon, d'après lui, aurait dû valoir à Nicolas Sarkozy une audition sous le statut de témoin assisté. C'est-à-dire qu'il y a des indices qui laissent penser qu'il n'est pas extérieur à la commission du délit, mais que ces indices ne sont pas suffisamment graves ou concordants pour le mettre en examen. Mais donc, il est quand même suspect dans les montages gouvernementaux liés au détournement sur les ventes d'armes. Et la CJR a décidé d'entendre Nicolas Sarkozy simplement sous le statut de témoin, ce qui de fait balaye le soupçon à son encontre. Il n'en demeure pas moins que 2 des plus hauts responsables politiques français des années 90, Édouard Balladur et François Léotard, aujourd'hui se retrouvent dans la seringue judiciaire, même si l'un et l'autre ont bientôt 80 ans et l'autre 90 ans.
Notre confrère Fabrice Arfi avec Diane Berger dans cette affaire. 6 autres protagonistes, dont Thierry Gobert, ex-membre du cabinet du ministre du budget de l'époque, Nicolas Sarkozy, et Nicolas Bazir, alors directeur de la campagne balladurienne, ainsi que l'intermédiaire controversé Ziad Takieddine, doivent être jugés devant devant le tribunal correctionnel de Paris du 7 au 31 octobre. À Paris, déploiement policier similaire à celui du 1er mai dernier, en pleine ébullition gilets jaunes. Les forces de l'ordre ont alors qu'il a interpellé 90 personnes. Elles en avaient contrôlé 1249 il y a une heure. Hier, la troisième grève planétaire pour le climat a mobilisé aux quatre points cardinaux, avec une montée en puissance au Brésil où la politique environnementale de Jair Bolsonaro cristallise les critiques. Manifestations dans 35 villes du pays. C'est un reportage à Rio de Janeiro de Jean-Mathieu Albertini.
Pour la grosse centaine de jeunes réunis au centre de Rio de Janeiro, il n'y a pas de doute, le gouvernement de Bolsonaro représente un danger pour la planète. Et le Brésil est devenu un front essentiel de résistance dans la lutte contre le changement climatique. Pas très nombreux, ils comptent bien se faire entendre au milieu des nombreuses pancartes. Camila s'est recouverte de boue pour attirer l'attention des photographes.
Il y a constamment des incendies de forêt partout dans le monde, pas seulement au Brésil. Mais le problème ici, c'est qu'on était en train d'améliorer nos politiques environnementales et il y a une énorme régression. Et donc ce mouvement environnemental au Brésil est extrêmement important pour mettre un terme à ce retour en arrière.
À quelques pas de là, Isabelle espère que cette mobilisation globale pousse les Brésiliens à s'engager davantage en faveur de l'environnement.
Beaucoup de gens parlent mais ne font rien. Moi, je ne peux plus rester chez moi à ne rien faire. Je pense que nous, Brésiliens, allons devoir entrer en résistance et ça va durer un bon bout de temps. Rien ne va changer à court terme, donc il faudra beaucoup de résilience pour continuer.
Car malgré la pression internationale, le gouvernement Bolsonaro n'a pas changé d'avis sur la question environnementale. Les annonces timides du président n'empêchent pas la forêt de brûler et les institutions brésiliennes chargées de protéger l'environnement font l'objet de coupes budgétaires et sont férocement critiquées par le chef de l'État et ses proches.
Et sans transition presque, aujourd'hui une nouvelle journée climat, la bulle économique nous entretient opportunément des passagers clandestins de la taxe carbone.
La bulle économique, Marie Viennot.
Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation.
Ainsi fut annoncé le moratoire sur l'augmentation de la taxe carbone par le Premier ministre Édouard Philippe en décembre dernier. Taxe carbone, taxe dangereuse. Pourtant, le but de cette taxe est au contraire de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'éviter des catastrophes bien plus dangereuses. Alors comment en est-on arrivé là? Comment une taxe censée nous sauver a-t-elle pu devenir si impopulaire? La réponse tient en deux mots qui caractérisent la problématique majeure de la lutte contre le changement climatique, passager clandestin. La théorie du passager clandestin, free rider en anglais, a été modélisée dans les années 60 par un socio-économiste américain. Le passager clandestin, c'est celui qui ne respecte pas les règles communes et en tire profit. Pour le climat, c'est celui qui ne fait pas sa part de chemin pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais bénéficiera des efforts que feront les autres. Pour la taxe carbone, les passagers clandestins sont tous ceux qui ne la paient pas ou peu, mais seront gagnants si, in fine, ce mécanisme réussit à faire changer les comportements. Car au départ, c'est bien ça l'idée de la taxe carbone, renchérir le prix de ce qui pollue pour que les agents économiques réorientent leurs choix vers des solutions bas carbone. Alors ils sont nombreux, les passagers clandestins de la taxe carbone, et c'est pour cela que cette taxe est devenue impopulaire, dangereuse et inefficace. En France, il y a une taxe carbone, c'est déjà ça, mais elle concerne essentiellement les carburants et surtout elle est régressive. Moins on a d'argent, plus on la paye. Les gilets jaunes l'ont dit et des études le confirment. Si la taxe carbone passe de 44 euros la tonne, son montant aujourd'hui, à 86 euros comme c'est prévu pour 2022, les 10% des ménages les plus pauvres y consacreront 1% de leurs revenus et les 10% les plus riches 0,3%. C'est injuste, car plus on est pauvre, moins on émet de gaz à effet de serre. Et c'est de surcroît inefficace, les ménages aux revenus les plus élevés étant peu sensibles aux augmentations de prix liées à la taxe carbone. Autre souci, cette taxe ponctionne surtout les ménages. C'est le Conseil des prélèvements obligatoires qui le dit. Aujourd'hui, les entreprises acquittent 36% du produit de la fiscalité carbone en France, alors qu'elles comptent pour 61% des émissions. Les secteurs les plus polluants sont exonérés de taxes, le transport routier, aérien, maritime, ou ont des droits à polluer qui sont gérés au niveau européen. Or, le prix de ce droit à polluer est en ce moment de 20 euros la tonne, bien loin donc des 44 euros payés par les automobilistes. Alors, aucune taxe n'est populaire, mais la taxe carbone, elle, est mondialement impopulaire, ce qui accroît encore le nombre des passagers clandestins. Vous entendez ces des opposants à Justin Trudeau contestait la taxe carbone dans l'enceinte du Parlement provincial d'Ontario au Canada. En Australie, le gouvernement travailliste ne l'a gardé que 2 ans. En Afrique du Sud, les entreprises agitent en ce moment même le spectre des licenciements et des fermetures d'usines. La dynamique mondiale n'est donc pas favorable. Ne pas taxer les émissions des entreprises sur son territoire, c'est être plus compétitif. Voilà pourquoi la taxe carbone cible partout et avant tout les carburants. L'OCDE vient de publier des chiffres à ce sujet. 82% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'énergie échappent à la taxe carbone. À l'opposé, les 44 pays de l'OCDE, dont la France, ont versé 126 milliards d'euros au profit de la production et la consommation de combustibles fossiles en 2017. Quand on donne 126 milliards d'euros d'argent public pour la pollution, il est effectivement politiquement compliqué de réclamer des efforts à quiconque pour éviter le réchauffement climatique. Et les climato-sceptiques de surfer sur la vague que surfent déjà tous les passagers clandestins du climat.
We stopped the carbon tax.
Merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots seulement de la météo de l'après-midi. Grand soleil aujourd'hui, à l'exception de la Nouvelle-Aquitaine et du pourtour méditerranéen. Cette édition a été préparée avec François-Charles Domergue à la technique, soit Boukorsa.